Bonjour, je m'appelle Karine Louandre. Vous êtes chanteuse, vous grôlez. Il n'y a pas beaucoup de femmes à produire ce chant. Félicitations. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre groupe ?
Alors, je m'appelle Noémie Alazard. Effectivement, je suis chanteuse dans un projet qui s'appelle U, dans lequel je joue de la batterie aussi. Et effectivement, j'ai appris à grôler, en plus du chant clair. Et c'est effectivement un chant qu'on associe peu aux femmes aussi, parce que les femmes sont moins présentes dans la musique et notamment dans le métal, mais on a quand même de très belles figures qui sont des voix féminines qui grôlent, et je pense que c'est une tendance qui va s'accélérer avec les années, parce que je vois de plus en plus autour de moi de femmes se mettre au chant saturé, au growl et au métal d'une manière générale.
Le growl est une technique qui produit des vibrations non usuelles. Quel est l'effet de ces fréquences sur votre corps, sur votre sensorialité ?
Alors, le growl fait partie des chants qu'on appelle le chant extrême, parce que pas uniquement pour la sonorité qui produit, qui est un petit peu la reproduction de chants de monstres, hein, enfin de voix monstrueuses. C'est que c'est vraiment ce son demande de vraiment un engagement complet du corps, notamment du diaphragme. Ça demande beaucoup de souffle pour produire ce son. Et du coup, le corps est vraiment engagé à 100%. Et c'est très très physique. Donc il y a vraiment une intensité dans le corps très très forte. Et en même temps, il faut avoir suffisamment de détente dans cette intensité pour ne pas se blesser. Donc il y a à la fois un mélange de vibrations intenses et de contrôle qui est toute la particularité des chants extrêmes. C'est que il faut beaucoup d'intensité et à la fois beaucoup de détente pour ne pas se blesser.
Qu'est-ce que vous apporte ces sensations au niveau sensoriel ?
Alors personnellement, ça a été une toute autre manière d'envisager le chant. Parce que moi, c'est justement quand j'ai commencé à l'aborder, je chantais depuis très très longtemps et j'avais vraiment peur de me blesser. C'est vraiment ce qui m'inquiétait le plus, et ça a été vraiment une des barrières les plus fortes à casser. C'est pour ça que je me suis fait accompagner par un professeur de chant de la Scream Academy, qui a vraiment débloqué complètement cette peur, en fait, qui m'a accompagnée dans l'exercice. Et une fois que cette tension était résolue, les choses se sont posées naturellement. La voix, c'est vraiment un travail très particulier, parce qu'en fait, il y a vraiment de l'ordre de l'intime dans la voix. C'est quelque chose qu'on a à la naissance, qu'on ne choisit pas. C'est pas comme apprendre un instrument où, en travaillant suffisamment, on peut avoir un niveau technique satisfaisant. Là, on a une voix qui est imposée. Et quand on chante en clair, on aura toujours cette voix-là, alors que le growl, on produit un son qui n'est absolument pas naturel. Donc il y a quand même, quand on arrive pour les premières fois à produire ce son, il y a vraiment une sensation de jouissance, parce qu'on se dit waouh, j'aurais jamais pensé que je pourrais produire un jour ce son. C'est vraiment extrêmement satisfaisant et extrêmement plaisant, et puis d'autant plus quand on commence à le maîtriser et à sentir qu'on peut vraiment accompagner de la musique avec, j'allais dire chanter, mais j'ose chanter en growl, parce que c'est un chant qu'on appelle la tonale. Il n'y a pas vraiment de note qui est produite. Donc voilà, il y a vraiment un truc extrêmement satisfaisant, et je pense pour la gente féminine d'autant plus que c'est une voix imposante, donc où il y a vraiment une sensation assez de satisfaction et assez puissante.
C'est presque un chant asexué.
C'est un chant asexué, parce que c'est vrai que souvent les gens ont du mal dans ce type de chant à différencier les hommes des femmes, quoi. C'est vrai.
Est-ce que ça vous amène du bien-être, de l'apaisement ou autre chose ?
Ben, un peu tout ça, à la fois de l'apaisement parce que ben, effectivement, comme c'est quand même un engagement physique très intense, on dépense beaucoup d'énergie à le faire, donc il y a une satisfaction de l'ordre limite sportif, hein, d'un effort sportif. Donc on arrive à la fin d'une répète, on est vraiment, vraiment fatigué, ou d'un concert. Il y a aussi la satisfaction d'avoir tenu, parce que bah, une fois de plus, c'est quand même vraiment un marathon. Faut assurer. Derrière, en plus, bah, si on bouge, etc., faut gérer d'autant plus son souffle. Et puis c'est à l'image de ce qu'est souvent la musique métal, c'est quand même un chant très exutoire, quoi, le fait de pouvoir crier dans un micro et de partager quelque chose de rageux, de d'énervé, de voilà, de transmettre ça au public, à ses musiciens, il y a une grande satisfaction. C'est vraiment extrêmement cathartique.
Le profane voit dans ce type de chant, en général, plutôt une agression. C'est souvent vu comme une anormalité. Et quand on est métalleux, on aime entretenir un petit peu ce flou, mais la réalité est que cela apaise et souvent détend. Est-ce que vous auriez une explication à ce phénomène de détente et d'apaisement ?
Bah, je pense que il y a effectivement différentes perceptions. Il ne faut pas oublier que le métal, ça reste malgré tout une musique de niche, une musique qui est réservée à un public de connaisseurs. Voilà, c'est vrai que sur des événements comme aujourd'hui au Hellfest, on ne se rend pas forcément compte parce qu'il y a des milliers de personnes, mais ce sont des milliers de personnes qui viennent de partout. Les communautés sont quand même... ça reste de petites communautés de personnes, donc ça reste aussi des musiques qui ne sont pas forcément entendues. Donc découvrir le growl, c'est extrêmement surprenant de se dire mais pourquoi on produit ce genre de son. Et à la fois... bah, les métalleux, on aime bien avoir ce genre de truc de « Ah mais toi, tu peux pas comprendre, c'est un peu notre truc, c'est un peu... » voilà, il y a à la fois le fait de vouloir faire en sorte que ça soit reconnu, en tout cas moins jugé, et à la fois, on a quand même ce petit truc de dire « Moi, je sais que tu ne pourras pas comprendre ma musique. » Il y a quand même un petit peu ce truc de temps en temps, un peu « C'est à nous, ça nous appartient, et il y a des codes que vous n'aurez jamais et qu'on va garder aussi. » Je pense que le growl en fait partie. Mais du coup, cette satisfaction vient un peu de tout ça, d'à la fois ce public, cette communauté même qui nous entoure et qui nous supporte, et de tout le travail que ça demande, parce que le métal, au-delà de la voix, c'est une musique extrêmement compliquée la plupart du temps. Ça demande énormément de travail et de technique à tout instrument et toute voix confondue.
Nous nous retrouvons au Hellfest et tout au long de l'année entre personnes qui vivent cette expérience vibratoire, sensorielle, dans la fosse et devant les enceintes. En fait, cette musique mobilise tous nos sens, mais elle est sélective et peu de personnes y ont accès. On estime moins de 10% de la population. À votre avis, quels sont les liens qui nous unissent ? Peut-on les expliquer ?
On en parlait tout à l'heure en off, et c'est vrai que c'est le métal, c'est un peu la musique des freaks, des oubliés. Je pense que c'est ce qui fait aussi que la communauté est aussi forte. C'est que on a tous plus ou moins, selon nos âges et selon nos milieux sociaux, on a tous été un petit peu jugés par nos goûts musicaux qui se sont souvent extrapolé à notre style vestimentaire. On voit, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens tatoués, il y a beaucoup de gens habillés en noir, il y a beaucoup d'hommes avec des cheveux longs. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est des codes aussi qui sont, une fois de plus, propres à une musique et que les gens se sont appropriés pour se reconnaître dans cette communauté qui... de par sa singularité, accueille aussi des profils aussi divers que variés. On le voit, il y a aussi bien des femmes, des hommes. Je veux dire, je pense que l'équité, là, je connais pas les chiffres, mais je vois, enfin, je me sens pas du tout c'est la seule femme. Ouais, ah ouais, ok, ouais. Bon, ça s'équilibre de plus en plus, voilà. On se sent à l'aise. Les gens s'habillent comme ils veulent. C'est un peu la récré, quoi. C'est un peu la récré des métalleux. On peut tous être. Je pense que c'est pour ça que ce festival et que les festivals de métal fonctionnent, c'est que. Au-delà de la musique, il y a le fait aussi de se retrouver ensemble pour un vrai événement, de partager ensemble des rencontres. On se parle facilement, on sait qu'on vient partager la même chose. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans un supermarché avec un t-shirt de métal, t'es là, ouais, toi tu fais trop partie de ma famille. Ben là, on fait tous partie de la même famille, même si la programmation est vraiment très éclectique dans les styles où... Justement, on peut tous se retrouver à travers des différences qui nous unissent. Et je pense que c'est ça, c'est que malgré toutes les différences qu'il peut y avoir dans les profils de métalleux, on vient tous un petit peu de la fange. Voilà, donc baignons-nous dans cette fange ensemble.
Dans les groupes de personnes atypiques, comme les personnes autistes ou avec TDAH, on retrouve beaucoup de fans métalleux. Un festival a d'ailleurs été monté dans le nord de la France autour de l'autisme, le Hautefest. Êtes-vous sensibilisé à l'autisme ou au TDAH ? Est-ce que vous avez vécu des interactions qui évoquent des besoins sensoriels au-delà des appétences pour le style de musique métal ?
Ben justement, un des derniers concerts qu'on a fait avant de jouer au Hellfest, c'était au Pit Dog à Rouen. Et là, c'est l'exemple le plus récent parce que c'était il y a 2 semaines, mais ça arrive fréquemment. Et du coup, il y a un jeune homme qui est venu nous voir après le concert qui dit « Oh là là, j'ai vraiment aimé la prestation, j'ai vraiment aimé. Puis du coup, on a commencé à parler de musique, de plein de choses. Et puis du coup, voilà, il nous a dit qu'il était autiste, que lui, il adorait le métal, que les gens le trouvaient bizarre, mais que à la fois, là, il se sentait bien, qu'il venait tout le temps. Du coup, on sentait qu'il était, en fait, il était à sa place, quoi. Il était venu seul. Et puis, du coup, il parlait. Et nous, on a parlé un moment ensemble. Après, il est allé parler avec d'autres gens. Enfin, voilà, on sentait que c'était sa famille. Il était là avec des gens qui étaient dans le non-jugement. Je pense que c'est on reste une fois de plus dans des musiques qui sont peu accessibles pour la plupart, extrêmes, donc ça touche aussi à des émotions, à des sensations qui sont extrêmes, qui sont on va aller chercher ça et la neuroatypie dans le sens plus large. Moi je suis atteinte de troubles bipolaires. Du coup, c'est toujours quelque chose que j'ai cherché dans la musique, c'est justement de créer des émotions très fortes. Donc j'ai écouté des musiques hyper extrêmes quand j'étais adolescente. Et après, je suis passée par d'autres styles, mais j'ai découvert Metallica et après j'ai écouté du black metal et du brutal death, quoi. Je me suis dit ah ouais, ok, ah, on peut aller jusque là dans la musique. Donc je pense c'est ce qui est aussi difficile à comprendre, c'est qu'on va chercher pas forcément un bon moment. On va aussi chercher une expérience. On peut faire un comparatif avec le cinéma, où du coup des fois on va regarder des films de genre et les gens vont nous dire mais pourquoi tu regardes ce genre de film, oh là là, moi j'ai peur. Bah oui, mais justement en fait aller se confronter en fait à ces émotions, c'est aussi un moyen de les vivre pour pouvoir les affronter plus tard. Voilà, il y a un côté une fois de plus cathartique et de vivre les émotions, de vivre des fortes émotions, ça permet aussi de s'y préparer et limite de les répéter. Donc il y a aussi, là c'est un jugement très très personnel par mon ressenti propre, c'est que je pense que ça permet de toucher des points que, qu'en tout cas peu de musiques peuvent toucher.
Je pense que la transe chamanique, par exemple, se joue au tambour. On rentre en transe par le tambour. Je pense que le métal nous permet de rentrer dans une sorte de transe, et la transe guérit et soulage.
Ah ben c'est sûr qu'en tout cas, c'est pas une musique gratuite. Voilà, c'est pas une musique de détente, c'est pas une musique, en fait, en tant que créatrice de ce genre de musique depuis des années, et la difficulté que c'est de se vendre en tant que groupe dans ce style, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est une envie qui est plus forte qu'une réalité. C'est plus qu'une réalité de marché, que c'est voilà, quelque chose qu'on a envie de vraiment de partager, parce que c'est limite ça nous dépasse. Voilà, il y a un truc où c'est plus fort que nous, on a besoin de le faire, ça devient une nécessité. Ça devient aussi bien une nécessité à écouter qu'à produire.
Les personnes atypiques ont souvent des besoins sur le plan des interoceptions, le fait de sentir tout ce qui est les stimuli internes au corps, et le son amène des pressions profondes. Plus que la musique, est-ce que le métal n'est pas une manière d'investir un corps et de le réinvestir, de le vivre et de se sentir soi?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus le cas en concert. Et c'est pour ça que c'est encore une des musiques qui ramène beaucoup de gens dans la fosse. Ce qui est de moins en moins le cas dans la musique. Mais dans la scène rock, dans la scène métal, les gens se déplacent. Les gens viennent partager une expérience ensemble de corporalité, de danse. Voilà, il y a un truc où les corps bougent, se choquent, suent. Voilà, il y a un vrai investissement corporel. C'est pas une écoute passive. Après, il y a plein de gens qui le font, mais c'est le show se fait des deux côtés, quoi. C'est vraiment, on fait partie du show, et quand on écoute ce genre de musique, c'est aussi pour faire partie intégrante du spectacle, pour être là dans la musique, pour faire corps avec la musique. Il y a vraiment ce truc où on y vient, on est là, on est présent, on va suer, on va donner de soi, on va donner son corps au moment aussi de la musique, quoi. Donc il y a vraiment ce truc où, non, moi, le concert, je ne peux pas le faire autrement qu'en fosse, parce que j'ai besoin de le vivre. Il y a vraiment aussi cette nécessité de vivre la musique à l'intérieur, quoi.
Avez-vous déjà eu des fans qui vous ont fait part d'expériences en lien avec le son? 4% de la population est synesthète. Un stimulus sensoriel déclenche une autre perception sensorielle. Par exemple, Tamet en Grande-Bretagne évoque des chiffres en couleur. Est-ce que on vous a déjà fait part d'une musique en couleur, par exemple?
Alors ça évoque plutôt, on m'a plutôt évoqué des ambiances, et c'est d'ailleurs ce que nous on essaie de produire, c'est vraiment d'apporter une expérience, vraiment un moment qu'on partage avec les gens. Et du coup, ça peut arriver que certaines personnes imaginent des paysages, des formes, disent ouais, j'avais cette sensation de voyager à un moment, ou de ça m'a ramené à quelque chose, un souvenir. Donc de toute façon, ça fait aussi jouer tous les sens sont en action, donc ça ramène forcément à des événements passés sans qu'on s'en rende compte. Et puis des fois, oui, on peut avoir des images, des textures qui apparaissent malgré nous, quoi.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, merci infiniment.